France Culture.
Tout de suite, Sylvain Bourmeau.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau.
Le 18 août 2008, 10 soldats français trouvent la mort dans la vallée de Ouzbin, au nord-est de Kaboul en Afghanistan, lors d'une embuscade tendue par les talibans. 21 autres sont blessés. Quelques mois plus tard, des familles de soldats morts au combat portent plainte pour mise en danger de la vie d'autrui. Et n'est-ce pas pourtant les risques du métier lorsqu'on est membre du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine? Comment comprendre et analyser cette plainte singulière, une première? Que dit-elle de notre monde contemporain? Le sociologue Yannick Barthes s'est penché sur de très nombreuses sources et se sert de cette affaire pour poser des questions beaucoup plus larges sur un processus qu'il nomme le blaming et ses différentes étapes. Il est cette semaine l'invité de la suite dans les idées. Et c'est un réalisateur, Rachid Hammi, qui nous rejoindra en deuxième partie de l'émission. Il est l'auteur de ce film « Pour la France » qui raconte une autre histoire de famille face à l'armée française suite à la mort d'un jeune soldat en formation dans une école militaire. C'est le sujet de cette fiction qui est par ailleurs une histoire très personnelle pour Rachid Hammi. Il nous rejoint en deuxième partie d'émission. Et puis une rubrique actualité qui sera avant les élections municipales, consacré aux élus des banlieues populaires à l'occasion de la parution d'un livre dans la collection La vie des idées. Et ce sera avec Marie-Hélène Baquet. Bonjour Yannick Barthes.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, vous êtes directeur de recherche au CNRS et directeur d'études à l'école des études en sciences sociales. Et vous publiez au CNRS édition L'affaire d'Ouzbin, la mort combattante en procès. Alors, c'est un livre qu'il faut essayer de prendre par deux bouts, en quelque sorte. À la fois ce qui a trait à l'affaire d'Ouzbin, et on va commencer par là, et vous nous allez nous rappeler les faits pour qu'on les remette en mémoire, ou qu'on les apprenne, tout simplement. Et puis, c'est un livre aussi qui a une vocation beaucoup plus large, et qui propose une sorte de modèle pour comprendre des situations dans lesquelles on se trouve, qui peuvent être très variées, qui peuvent avoir à voir avec des épidémies, des catastrophes naturelles, des accidents ferroviaires, que sais-je. En l'occurrence, ce sur quoi vous vous êtes penché, c'est cette situation dans laquelle des soldats français en Afghanistan trouvent la mort dans une embuscade. Alors, jusque-là, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des soldats. On a tendance peut-être à se dire ils sont payés pour prendre ce risque et ça fait partie des risques du métier. Sauf que, pour la première fois, leur famille, la famille de certains d'entre eux qui sont morts, ont décidé de porter plainte. Porter plainte non pas contre l'armée, mais contre X, en fait, pour essayer de mieux comprendre la chaîne de responsabilité qui a rendu possible cette mort. Et donc, cette affaire, qui a été très médiatisée à l'époque, en 2008, vous a intéressé, non pas pour, à votre tour, mener une enquête au sens classique du terme, beaucoup de journalistes l'ont fait, même des romanciers s'y sont lancés, des documentaristes, mais pour travailler à partir justement de toutes ces sources, beaucoup de sources de presse en particulier, pour essayer de voir ce qui était en jeu là, et pour au fond se servir de ce cas comme véritablement un cas d'école en quelque sorte.
Oui, alors on va peut-être parler quand même de ce cas justement. Vous l'avez rappelé, c'est un cas qui peut paraître banal, c'est-à-dire un accrochage en Afghanistan par des militaires, mais qui a suscité une grande émotion dans le pays et une grande couverture médiatique également à l'époque. Donc je rappelle, hein, le cas, c'est effectivement une patrouille de soldats français prise dans une embuscade tendue par les talibans, et le bilan, c'est ça qu'il faut rappeler quand même, le bilan est extrêmement lourd puisque 10 soldats trouvent la mort ce jour-là et 21 autres sont blessés. Alors j'ai bilan lourd parce que finalement, quand on regarde bien, c'est un des bilans les plus lourds essuyés par l'armée française depuis la guerre d'Algérie, hein, quasiment. Donc ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est que dans les premiers jours, disons, il y a une grande émotion, et puis très vite vient le temps des questions. Hein, on se dit comment se fait-il quand même que des militaires français se soient laissés prendre au piège de cette façon? Et donc tout un nombre de questions sont posées. qui, je le précise, ne viennent pas des familles, en fait, au départ, mais plutôt du milieu militaire, on va dire, au sens large, c'est-à-dire un milieu militaire qui comprend à la fois des journalistes spécialisés, qui souvent tiennent des blogs qui sont très influents, qui sont très lus dans le milieu militaire, et puis des militaires eux-mêmes, parfois sous couvert d'anonymat, mais qui posent des questions, et surtout qui se plaisent à lister les erreurs, en fait, qui ont entouré cette mission. Alors, erreurs multiples, allant de questions sur l'équipement des soldats français, est-ce qu'il est adapté à ce terrain-là, la jeunesse et donc l'inexpérience éventuelle de ces soldats, et puis questions qui portent sur la mission elle-même, c'est-à-dire que une des questions est de savoir pourquoi il n'y a pas eu de reconnaissance aérienne avant d'envoyer cette patrouille dans une zone qu'on savait extrêmement dangereuse.
Alors c'est une vallée, en l'occurrence cette patrouille, elle visait un col plus haut qui n'était pas accessible aux véhicules, donc il fallait y aller à pied, donc il y a un petit groupe de soldats qui est envoyé à pied.
Exactement.
Et c'est ce petit groupe qui se trouve sous le feu des talibans.
Tout à fait. Alors, voilà, s'ajoute à ça que cette patrouille devait être protégée, disons, par des soutiens, un appui, et bien là, ça n'a pas fonctionné, puisque l'embuscade a été extrêmement violente, de grande ampleur, avec des centaines de talibans engagés. Et donc, il a fallu attendre
très longtemps pour
24
que...
heures voilà. pour vraiment... tirer d'affaire cette patrouille avec évidemment le dommage qu'on a rappelé. Donc en fait, disons que toutes ces questions que j'évoquais, elles vont être posées durant les semaines qui suivent, et c'est au bout d'un certain temps que les familles vont commencer à demander des clarifications sur la manière dont cette mission s'est déroulée, et faute d'avoir des réponses qu'elle jugeait satisfaisantes, eh bien on décidait de porter plainte.
Alors il va y avoir un procès, mais au fond ce qui vous intéresse c'est pas tellement ce qui va se passer au plan juridique, c'est plutôt ce qui se passe dans la définition de la situation, celle dont vous avez parlé, celle qui se fait jour dans ces milieux militaires, celle qui se fait jour dans l'espace public, celle qui se fait jour à travers les prises de position publiques des responsables politiques. Et pour appréhender cette séquence d'événements, vous mettez en place, au fond, une analyse de ce que vous appelez le blaming. Vous vous inscrivez en ça dans une tradition sociologique antérieure, c'est-à-dire vous choisissez de garder ce mot anglais. Peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi, d'ailleurs.
Oui, parce que... disons la traduction, enfin le mot blaming, c'est un mot qui a été très utilisé dans un certain nombre d'études anthropologiques ou en psychologie sociale aussi, qui désigne en fait le fait d'imputer une faute en fait à quelqu'un. Et le problème, c'est que la traduction française de blâme contient, disons, une connotation morale qui ne rend pas justice, je trouve, du processus d'accusation en fait et de responsabilisation qui accompagne ce genre de processus. Donc, effectivement, la question qui se pose à propos de cet événement, c'est soit on considère que, comme vous l'avez rappelé en introduction, que ce sont les risques du métier, et au fond que cet événement, ce genre d'événement est attendu dans le cadre d'opérations extérieures menées par l'armée française. Soit on considère, au contraire, que cet événement a quelque chose d'anormal, d'atypique. Et en fait, ce qui m'a intéressé, c'est la manière dont cet événement va être progressivement construit comme quelque chose d'exceptionnel, d'atypique et surtout d'évitable.
Alors, vous avez dit anormal. C'est précisément la première étape pour vous dans ce processus, parce qu'il s'agit bien d'un processus de blaming. La première étape, c'est celle que vous appelez anormalisation, pardon, c'est-à-dire le fait de parvenir à présenter ce qui s'est passé comme quelque chose d'anormal. Quelque chose qui vient rompre avec l'habitude, avec ce à quoi on devrait s'attendre, en fait.
Exactement. Ce que j'appelle l'anormalisation, c'est un peu l'amorce du processus de blaming, puisque, au fond, quand on peut en faire l'expérience tous les jours, quand il nous arrive des événements indésirables, il y a plusieurs manières d'y faire face. Soit on peut ramener cet événement à une forme de fatalité, à une forme de, à un concours de circonstances, à une malchance. Et d'ailleurs, c'est ce que font, disons officiellement, la hiérarchie militaire. C'est ce que fait la hiérarchie militaire officiellement. Elle va dire, bah, c'est le brouillard de la guerre, c'est l'incertitude de la guerre. On ne pouvait rien prévoir. Ce sont des choses qui arrivent. Soit au contraire, on se dit que, eh bien, cet événement ne doit rien au hasard, à la fatalité, mais qu'il pouvait être évité. Et s'il pouvait être évité, c'est par définition qu'il n'est pas attendu, qu'il n'est pas normal. Évidemment, après, la question se pose, comment pouvait-il être évité ?
Alors, on va venir dans ce détail, mais normal, vous renvoyez de manière classique à Canguilhem en particulier, il y a deux façons de considérer normal. Soit ça sort de la régularité statistique. Alors, de ce point de vue-là, c'est anormal, effectivement, puisque, comme vous le rappeliez, c'est pas tous les jours, fort heureusement, que 9 soldats français meurent dans des opérations militaires extérieures. Donc, c'est anormal au plan statistique. Mais anormal, ça veut dire aussi qu'il sort de la norme au sens un peu plus moral du terme. Et là, il y a tout un travail de qualification. Un certain nombre de gens vont émettre leurs avis, leurs opinions, pour essayer de dire si c'est normal ou pas. Pas forcément de façon aussi frontale. Mais ce qui est paradoxal, c'est que vous disiez que le pouvoir militaire va essayer de présenter les choses comme ça fait partie des risques du métier, mais dans le même temps, le pouvoir politique, et c'est là peut-être l'amorce, l'ironie d'une certaine façon de cette histoire, parce que le pouvoir politique à l'époque est incarné au plus haut sommet de l'État par un président de la République assez anormal ou assez atypique de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy, qui va en faire beaucoup. Il est en vacances, on est au mois d'août, quitte ses vacances pour se rendre en Afghanistan. Il en fait énormément. Il y a une cérémonie d'enterrement aux Invalides. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, de fait, dans le traitement officiel. C'est pas tous les jours, encore une fois, qu'il y a 9 soldats qui sont morts. Mais disons qu'il y a une réaction, peut-être très, qui favorise ce jugement d'anormalisation et qui est rendu possible par les plus hautes autorités de l'État, en fait, Yannick Barr.
Il est clair que la réaction, elle est très forte, en fait, de la part de non seulement de Nicolas Sarkozy, mais je rappelle que quand il se déplace immédiatement en Afghanistan, hein, comme dans le cadre d'une catastrophe naturelle, je dirais, accompagné de 2 ministres, du chef d'état-major des armées, etc. Et il tient un discours en Afghanistan qui est très très important, me semble-t-il, justement dans ce processus de qualification de l'événement, puisque il dit en substance que ça ne se reproduira plus. Voilà, ça ne se reproduira plus.
Une fois ça va,
mais... deux non. Donc à la manière un peu.
Il parle comme ça. Hein, c'est une citation.
Et donc évidemment surprise dans le milieu militaire en disant c'est nier précisément les risques du métier, l'incertitude, que le fait qu'on ne peut pas tout prévoir, etc. Et donc évidemment le fait de qualifier l'événement comme quelque chose qui aurait dû ou pu être évité. Eh bien, ça ouvre la voie, disons, à une recherche de responsabilité, même si ce n'est pas encore le cas à ce moment-là.
Est encore dans cette phase d'amorce. Voilà. Mais cette phase d'amorce, assez vite, elle se clôt avec l'idée relativement partagée par un certain nombre d'acteurs sociaux qu'effectivement, c'est anormal. Ce qui ouvre la voie à une deuxième phase du processus de blaming, qui est la phase que vous appelez de victimisation.
Oui, parce que une fois qu'on a dit que tel événement était anormal, qu'il aurait pu être évité, évidemment la question se pose de qui aurait pu l'éviter. Et en l'occurrence, une des questions qu'on se pose traditionnellement, c'est de savoir si finalement la victime de l'événement n'a pas une part de responsabilité dans cet événement indésirable. Hein, c'est ce que les anglo-saxons appellent le victim blaming finalement, c'est-à-dire qu'on responsabilise en partie...
Ils l'ont bien cherché.
Hein, voilà, ou disons, ils n'ont pas agi en professionnel, ils n'ont pas pris les mesures nécessaires, etc. Ce n'est pas du tout ce qui se passe à la suite du SBIN, puisque d'une part, il s'avère rapidement que les soldats en question ont fait preuve d'un grand courage et se sont comportés en excellents professionnels. Donc ils sont plutôt considérés comme des héros.
Mais alors comment on peut être héros et victime à la fois ?
Eh bien justement, puisque ils sont héros, puisqu'ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire pour faire face à cette embuscade. Et pourtant, le bilan est là. Question, est-ce que ils n'ont pas été victimes d'une forme d'impuissance qui ne tient pas à eux-mêmes, mais à d'autres, c'est-à-dire aux personnes qui ont préparé la mission, à leur équipement, etc. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent être. C'est précisément même parce qu'ils sont héros qu'ils peuvent être victimes, d'une certaine façon.
Alors, ça, votre analyse permet vraiment de comprendre cette situation du monde social dans laquelle on se trouve aujourd'hui, où finalement, ce sont des choses qui vont assez souvent ensemble, victimes et héros. Yannick Barthes. Enfin, qui peuvent aller ensemble.
Qui peuvent aller ensemble. Parce que je crois que. Mais ça, j'avais essayé de le montrer dans un livre précédent. En fait, un des critères qui a été très longtemps attaché à la victime, disons, c'est celui de la passivité. Or, la passivité comporte une connotation, péjorative, stigmatisante, on va voir, dans certains cas. Et aujourd'hui, la notion de victime est plutôt associée à une forme d'impuissance et non pas de passivité. Et c'est le cas ici, puisqu'ils n'ont pas du tout été passifs. Au contraire, ils se sont battus, comme le disent les témoins, comme des lions. Et ça n'a pas empêché le lourd bilan de l'embuscade. Donc voilà, je pense que cette évolution, même dans la définition de la notion de victime, ou les caractéristiques qu'on attache à la notion de victime, qui sont en train d'être changées précisément pour se débarrasser des connotations péjoratives qui pouvaient être attachées à cette notion auparavant.
Donc là, tout le travail discursif qui a été produit par différents acteurs pour commenter cette affaire et qui a fait des portraits d'eux en héros combattants, morts au combat, a fait, eux, dans le même temps, d'eux, des victimes. Et donc a accompli, au fond, cette deuxième étape du processus de blaming, qui est l'étape de victimisation. C'est-à-dire que, d'une part, l'événement était considéré comme anormal, d'autre part, ils se trouvaient être les victimes de cet événement.
Voilà. Événement anormal. Les victimes ne sont en rien responsables de cet événement. Dernière question qui se pose, qui donc est responsable de cet événement?
Et là, c'est la troisième étape de ce processus.
Voilà, c'est l'étape que j'appelle de responsabilisation. Bien, souvent, le mot blaming est associé à la responsabilisation, mais je trouve intéressant, du point de vue analytique, de séparer différentes opérations.
C'est analytique et relativement chronologique en même temps.
Tout à fait. Voilà. Alors, responsabilisation, là, évidemment, ce qui surprend dans cette affaire, c'est qu'on se dit que, il y a une cause directe à la mort des soldats français, en l'occurrence. Ce sont les talibans. Hein. C'est l'ennemi, en fait. Or, ce qui m'a surpris, d'ailleurs, quand j'ai commencé à regarder cette affaire de près, c'est que les talibans disparaissent très vite, en fait, de la scène. On n'en parle pas. On n'en parle plus du tout. Ce dont on parle, c'est du comportement de la hiérarchie militaire. Voilà. Du comportement des officiers. Du comportement de tous ceux qui ont préparé cette mission. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans cette affaire, c'est qu'on voit un déplacement, en fait, que je pense, mais peut-être on y reviendra, je pense, assez général, là, pour le coup, qu'on retrouve dans beaucoup d'autres affaires, où, en fait, on ne se satisfait plus de la cause directe. La cause directe n'est pas, je dirais, la cause qui alimente principalement le processus de responsabilisation. Ce qui alimente le processus de responsabilisation, c'est une cause indirecte, une cause qui est liée à une action qui n'a pas été faite, disons, à une défaillance, à un manque de protection.
D'anticipation.
D'anticipation. Et là, il est évident que la hiérarchie militaire n'a pas tué ses soldats. Mais, néanmoins, pour les familles, en tout cas, certaines familles considèrent que la hiérarchie militaire est davantage responsable de la mort de ses soldats que ne le sont les talibans. Oui. Il y a des déclarations qui sont faites en ce sens par certains parents des soldats.
Néanmoins, cette plainte est une plainte contre X et ces familles de soldats prennent garde à préciser que ce n'est pas l'armée avec un grand A qu'elles visent.
Non. Et non, parce que elles ne peuvent pas viser l'armée en général, puisque leur fils était engagé dans l'armée. Non, très vite, ce sont effectivement quelques officiers qui sont ciblés. Avec le temps et avec la réaction plutôt défensive de l'armée, je dirais que l'accusation s'élargit un petit peu, puisque à force de ne pas être entendu, écouté ou que leur plainte soit lettre morte, d'avoir des blocages dans l'information, tout simplement sur ce qui s'est passé, eh bien les familles vont en venir quand même à mettre en cause l'armée, d'une manière plus générale. L'armée sur son fonctionnement intrinsèque, sur son manque d'ouverture, sur son manque de démocratie en fait. Hein, c'est ça qui finalement revient le plus souvent.
Et la question de la place de la justice dans tout ça, parce que pour en terminer avec ce cas Ouzbine et élargir les choses, à partir de là, Yannick Barthes, on peut dire que l'un des résultats judiciaires de cette affaire sera été de rendre impossible désormais, après cette affaire, la possibilité pour les familles de militaires de se porter partie civile dans ce type de situation.
Voilà, pour l'instant, parce que la réaction, comme je le disais, il n'y a pas eu de procès justement dans cette affaire. C'est ça qui est intéressant.
Il y a une procédure, mais il n'y a pas eu.
Voilà, il n'y a pas eu de procès. Il y a eu une ordonnance de classée sans suite. Par faute de documents, faute d'informations en réalité, puisque la plupart des retours d'expérience concernant cette embuscade ont été classés secret défense et que le secret défense n'a pas été levé. Et par ailleurs, effectivement, l'armée a pris peur. En fait, il faut bien se rendre compte du choc que ça a été. Il y a eu deux chocs en fait dans cette affaire. Il y a eu le choc de l'embuscade d'une part, et puis il y a eu le choc de la plainte. Et les mêmes qui critiquaient la mission, la préparation de l'opération avant la plainte, après la plainte, eh bien, se sont renfermés, disons, pour critiquer, au contraire, la judiciarisation des affaires militaires et donc pour contester le droit de regard du civil, disons, sur des opérations de combat.
Alors, vous, ce qui vous intéresse précisément, c'est pas forcément nécessairement l'armée, ces affaires judiciaires. Ça donne lieu à des questions très très intéressantes sur le rapport de la justice à ça, la question du statut des documents, du classé défense, vous venez de le rappeler. Bon, ce sont des débats démocratiques extrêmement importants. Mais vous, ce qui vous intéresse comme sociologue, c'est plutôt ce cas en ce qu'il permet de penser des tas de situations différentes. Par exemple... Je parlais tout à l'heure d'épidémie. Évidemment, c'est un livre, vous avez travaillé sur ce sujet pendant la pandémie, ça se sent, ici ou là, il y a des analogies. De la même façon que on peut dire que ce sont les talibans qui ont tué les soldats français, mais il peut y avoir d'autres responsabilités, c'est le virus qui a tué dans le cas de la pandémie de Covid directement, mais il peut y avoir des responsabilités du fait de ne pas avoir anticipé le stock de masques, par exemple, pour prendre un exemple, Yannick Barthes.
Oui, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Ce qui me semble intéressant dans ce cas, c'est qu'il vient illustrer un déplacement, c'est une hypothèse de travail, un déplacement en termes de d'appréhension du malheur qui consiste à se focaliser sur des causes qui ne sont pas des causes directes du malheur, mais qui ont l'avantage d'être des causes qui permettent des interventions. Voilà. Il est beaucoup plus facile, si vous voulez, de critiquer la politique gouvernementale. Par exemple, si on reprend le cas de la pandémie, la politique gouvernementale en matière de masques ou d'hôpitaux, de s'en prendre au laboratoire chinois d'où vient le virus. Donc, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que ce qui va primer désormais, ce sont ce que j'appelle les instances de contrôle, qui évidemment ne causent pas les événements indésirables, mais qui sont en charge de les éviter, de les anticiper. Je veux dire qu'il n'y a pas
les
une
agences de santé...
Mais je ne sais pas, si on prend des événements qui ne sont pas aussi dramatiques que cette affaire, si vous prenez Météo France, c'est encore récemment l'épisode neigeux, le ministre des Transports dit « je crois que Météo France a sous-estimé l'importance de l'épisode neigeux ». Comme si Météo France était responsable de toutes les complications liées à cet épisode neigeux. Donc voilà, je crois qu'il y a, en fait, c'est le revers un petit peu de la protection qui est offerte par ce que j'appelle les instances de contrôle, par le développement des instances de contrôle et ce qui va avec par le développement de la protection de l'État d'une certaine façon. Le revers, eh bien, c'est que quand l'événement indésirable survient malgré tout, il paraît logique de s'en prendre non seulement et même pas prioritairement à la cause directe, mais à l'instance qui devait éviter que cette cause directe produise des effets.
C'est ce que vous appelez l'internalisation du malheur.
Tout à fait. Internalisation des causes du malheur, c'est-à-dire que là, on va s'en prendre, si on reprend le cas de la pandémie, à une cause interne. Je veux dire, ce que j'appelle interne, c'est une cause qui relève d'un collectif d'appartenance, disons, plutôt qu'à une cause externe. Si vous prenez les catastrophes naturelles, par exemple, on l'a vu encore très récemment sur les inondations, on va pas s'en prendre à la pluie, mais on va s'en prendre à la manière d'avoir organisé des...
D'avoir laissé, par exemple, des constructions dans des zones inondables.
Voilà, ou... Exactement. Et du coup, ça offre beaucoup de possibilités aussi de blaming. Hein. Le paradoxe, il est là, c'est que plus il y a d'instances de contrôle, plus il y a de possibilités de politiser le malheur à travers la responsabilisation de ces instances.
Alors, ce qui est passionnant dans votre travail, Yannick Barthes, à ce propos, c'est que c'est un travail de sociologie et qui va aussi à rebours d'un certain nombre d'autres explications en termes de mentalité, de transformation des mentalités, de ce point de vue. Si on revient à l'armée, par exemple... Vous remettez en cause les interprétations qui laisseraient entendre que désormais, si on réagit comme ça quand des soldats sont tués au front, ce serait parce que il y a une forme de déni de la violence de la guerre, que ce serait plus supportable en fait. Et au contraire, vous de façon qui peut paraître paradoxale, vous montrez que c'est une forme d'intégration de l'armée à l'intérieur de la société qui rend possible cette internalisation des causes du malheur. C'est-à-dire qu'au fond, ça n'a rien à voir avec les mentalités, ça a plutôt à voir avec des phénomènes que les sciences sociales connaissent bien, de spécialisation, de complexification des sociétés, qui sont tellement complexes qu'elles en viennent à multiplier les instances de contrôle, comme vous dites, au fond, et qu'elles offrent du même coup la possibilité d'interroger des chaînes de causalité ou des causalités complexes qui font qu'on se retourne vers différents rôles sociaux endossés par les uns et par les autres.
Oui, tout à fait. Si on prend... Alors, effectivement, il faudrait faire le travail dans chaque domaine particulier, en fonction d'un type d'événement indésirable, mais si on prend l'armée, ce que j'essaie de faire dans le livre aussi de montrer comment a évolué cette instance de contrôle qu'est l'armée, et comment la tension qu'il y a entre sa mission principale, qui est la protection du collectif, et une autre mission qui est de protéger aussi ses soldats, eh bien, devient parfois difficile à résoudre. Alors, je ne dis pas que les interprétations en termes de changement de mentalité sont fausses. Elles sont, je dirais, même pas fausses en réalité.
Elles sont pas très prouvables.
Voilà, elles sont même pas fausses. Ou alors, en tout cas, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et donc, ce que j'essaie de montrer en l'armée, c'est que, au fond, le paradoxe de la professionnalisation des armées à la fin des années 90, est que, effectivement, a priori, on pourrait considérer que l'armée vient une sorte d'enclave, qu'elle se sépare de la société en se professionnalisant. Mais non, puisque l'armée doit au contraire s'ouvrir pour recruter. Hein, il y a un vrai problème de recrutement à la fin au début de la professionnalisation. Elle doit s'ouvrir, et pour s'ouvrir, elle doit attirer des candidats, en fait. Et pour ce faire, s'ajuster un minimum aux attentes de ces recrues. Et évidemment, c'est là qu'il faut regarder de près quelles sont les attentes, comment ces attentes sont anticipées. Mais ces attentes ne sont pas forcément d'aller mourir en août 2008 dans une vallée afghane.
Alors, dans ce livre, vous essayez de réfléchir à ce que signifie ce processus de blaming en termes de transformation, d'internalisation des causes du malheur, pour reprendre cette expression. Et vous essayez de le faire, comme je le rappelais, d'un point de vue sociologique, c'est-à-dire ce qu'on appelle holiste, c'est-à-dire en s'attachant à comprendre des logiques sociales. Mais c'est pas la seule manière de faire. D'ailleurs, vous citez des travaux de psychologie sociale réfléchissent davantage en termes d'intentionnalité, par exemple, des acteurs de responsabilité personnelle. Il y a un type d'acteurs sociaux que j'ai trouvé assez absent de votre livre et qui me paraît jouer un rôle central, c'est le journalisme et c'est les médias. Et il me semble que le journalisme a souvent une tendance à réfléchir en termes d'intentionnalité des acteurs, de responsabilité personnelle, qui est d'ailleurs assez congruente avec la justice. Mmh. Là où les sciences sociales nous proposent de réfléchir à ces questions en termes de logique sous-jacente. On voit la difficulté qu'on a avec des expressions comme quelque chose de systémique, en fait. Mmh. Le grand public a toujours du mal à comprendre ce qu'on entend par là, c'est-à-dire par-delà les intentions de violence, de racisme, de sexisme, etc. Il y a des logiques sociales qui conduisent les acteurs sociaux à se comporter de telle ou telle manière. Et c'est cette perspective-là qui vous intéresse, évidemment, Yannick Barthes.
Oui, il y a... Bon, c'est vrai que vous mentionniez les travaux de psychologie sociale. Il faut savoir que, alors, la psychologie sociale n'a pas généralement pas très bonne presse hein, en sociologie. Mais en même temps, j'ai découvert tout toute une école de pensée sur ces questions justement d'attribution, de responsabilité, d'attribution causale. En fait, puisque la
oui, c'est intéressant pour
réfléchir. C'est intéressant. Voilà, c'est ça. Je l'utilise parce que, en fait, c'est moins, je dirais, que c'est pas forcément l'intentionnalité qui prime chez ces psychologues sociaux. C'est plutôt, c'est l'échelle individuelle. Voilà, ce sont les individus.
C'est de l'individualisme voilà. méthodologique.
Voilà, exactement. Et si on considère, c'est eux qui font la distinction justement cause interne, cause externe. Cause interne, c'est tout ce qui se rapporte à l'individu. Cause externe, c'est tout ce qui ne se rapporte pas à l'individu. Et il me semblait intéressant d'avoir une notion un petit peu différente de l'interne. Qui est déjà plus olive.
Chez vous, l'interne est social.
Voilà, l'interne est social, c'est-à-dire c'est le collectif en fait, c'est le collectif d'appartenance. L'armée, de ce point de vue, est une cause interne dans mon cas et non pas une cause externe, contrairement à ce qu'on pourrait penser. L'armée est une cause interne parce que l'armée relève du collectif d'appartenance et l'armée peut faire l'objet d'une intervention politique. Donc c'est en ça que je trouve intéressant à la fois de s'inspirer des nombre de ces travaux ou de ce que vous mentionniez même du journalisme disons essayer de le traduire sociologiquement. Qu'est-ce que c'est notre métier après tout d'essayer de trouver des logiques sociales au-delà des cas individuels.
Alors justement, ce modèle, parce qu'au fond, c'est un modèle. Moi, en vous lisant, je me disais, mais c'est très puissant comme schéma explicatif. C'est un modèle comme celui de Hirschman sur Exit, Voice, Loyalty. Au fond, c'est il y a trois phases. Donc j'imagine que vous l'avez fait tourner, ou d'autres l'ont fait tourner avec vous lors de travaux, de séminaires collectifs sur d'autres objets pour voir comment ça marche, Yannick Barthes.
Je suis content que vous mentionniez Hirschman, parce que c'est un de mes auteurs favoris en sociologie. Non, ce modèle, il doit effectivement être mis à l'épreuve. Ce que je veux dire simplement, c'est que effectivement avec les étudiants, j'en ai beaucoup parlé. Les étudiants adorent ce modèle parce que ça marche. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, ça marche, mais
on peut le mettre
disons,
à l'épreuve.
Voilà, et disons que ça fait écho aussi à des situations, je trouve. Extrêmement varié en réalité, puisque ce que j'appelle les malheurs dans le livre, il faut voir ça comme, disons, tout événement indésirable. Il peut être plus ou moins grave. Et donc, je pense qu'une fois qu'on a ce modèle en tête, on le voit fonctionner, je dirais, presque au quotidien, en tout cas, je l'espère. Mais c'est évidemment une des ambitions du livre, que d'autres chercheurs, d'autres collègues s'en saisissent et essaient de le mettre à l'épreuve sur d'autres cas. Qui sont peut-être moins même flagrants, peut-être. Donc, c'est ce que j'attends avec plutôt impatience, d'ailleurs.
On va rester sur des cas de malheur dans l'armée, dans la deuxième partie de l'émission, avec Rachid Ami qui nous rejoint pour parler de son film « Pour la France ». C'est après un extrait du nouvel album de Remember Sports, « Bug ». Please let me in, I'm a bug under your skin. Again, it's a chip I'm stepping in. Shared a bowl with Tonio a couple days ago.
France Culture, la suite dans les idées. Sylvain Bourmont.
Police control, there's so much I'll never know about you now that I found out you owe me nothing. Creeping up to our front door, but I told it come back later. Crawling by, please don't cry, I was just being honest. I'm running out of reasons to keep pushing through. Say that there's more to life than cleaning up my room. I'd get you out of my head if I knew how to. Say there's a reason I keep coming back.
On parle de responsabilité dans l'armée aujourd'hui à la suite dans les idées. On en a parlé à propos de l'affaire Douzebine avec le sociologue Yannick Barthes. Et on va en parler à propos d'un film pour la France que vous avez réalisé, Rachid Ami. Bonjour.
Bonjour.
C'est un film dont vous êtes réalisateur, mais qui trouve son origine en fait dans une histoire personnelle.
Exactement, c'était l'histoire de mon petit frère et de ma famille qui nous a servi un peu d'inspiration pour raconter cette histoire. Et c'est une histoire beaucoup plus personnelle et intime que ce que peut laisser le titre, ce que peut laisser paraître le titre en tout cas. Voilà.
Mais peut-être vous pouvez nous rappeler les faits, tout simplement. Votre petit frère était en formation dans l'armée.
Exactement, mon petit frère était à Saint-Cyr. Il a perdu la vie lors d'une soirée de transmission de tradition lors d'une nuit d'octobre en 2012.
Donc dans des formes de rituels relativement fréquents, j'imagine. Je dis ça pour essayer de caractériser la situation, savoir si elle était anormale ou pas anormale, pour reprendre la catégorie de Yannick Barthes, en fait.
Ben, je pense que... Essayer de comparer, pour moi, je vais être un peu bref, mais essayer de comparer ce qui s'est passé à Ouzbine avec ce qui s'est passé pour Jalal, c'est très compliqué, parce que c'est des contextes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ouzbine, c'est un théâtre de guerre, où des forces françaises sont en train de combattre des talibans en Afghanistan. Donc il y a un ennemi, il y a quelque chose d'assez clair, si vous voulez, sur la question justement de la responsabilité que ça engage. Jalal, il était à l'école à Saint-Cyr, il n'était pas là-bas pour mourir, il était justement là-bas pour apprendre à survivre en temps de guerre.
Oui, donc il n'y a pas d'équivalent d'équivalent aux talibans en l'espèce.
Non, il n'y a pas d'équivalent, et puis surtout, pour rappeler, j'ai toujours une position très nuancée. Moi, l'armée, c'est quelque chose que je trouve très important. L'armée française, Jalal, il s'y est engagé, il était Saint-Cyrien. Et moi, le premier jour où je suis arrivé au procès, les médias étaient là, et je leur ai dit quelque chose que je porte jusqu'au bout, c'est que c'est pas un procès d'une famille arabe contre Saint-Cyr. C'était un procès sur des soldats Saint-Cyriens, et l'un d'eux a perdu la vie, voilà.
Alors ça, c'est le point commun, malgré tout, entre les deux affaires, qui sont très très différentes, vous avez raison de le rappeler, c'est que il y a dans les deux cas une famille ou des familles, et puis en face, l'armée française et la justice au milieu.
Ouais, mais c'est pas l'armée en face. Je pense que d'essayer de généraliser comme ça, c'est une erreur. Nous, on n'était pas face à l'armée. Nous, on était face à des élèves officiers qui ont débordé de ce qu'ils avaient le droit de faire dans le cadre de la transmission de tradition. Et donc, c'est pas comparable. D'ailleurs, c'est pour ça que, d'un côté, il y a eu un procès contre des personnes physiques, pas contre l'armée, pas contre Saint-Cyr, pas contre l'idée
pas contre l'institution,
de ce que
oui.
représente l'armée française. Non. Et puis nous, on n'est jamais été contre l'institution jusqu'à aujourd'hui.
Comment vous avez... décidé d'une part, et d'autre part, vous vous y êtes pris pour bâtir, à partir de cette histoire douloureuse pour vous, un film de fiction.
Ben, je pense que le point de départ, il était assez simple, c'est que souvent on parle de gens comme nous, c'est-à-dire des musulmans, des Algériens, des Arabes, des étrangers, de manière soit statistique, soit de manière un peu... voilà, c'est on fait la une des journaux, mais on raconte jamais les histoires de ces gens-là. Et je trouvais que l'histoire de Jalal a été exemplaire quelque part, parce que c'était exemplaire dans le sens où c'était la méritocratie républicaine qui était incarnée quelque part. Et de raconter cette histoire-là, qui se passait justement de manière plus réaliste avec ce que représente cette communauté en France, d'une manière romanesque, et donner le droit à l'intime à ces gens qui viennent de milieux populaires et d'ailleurs, c'était important pour moi. Et je pense souvent à... Vous savez, quand j'écris, quand je travaille, je pense souvent à Joseph Kessel. Parce que lui-même était un basané, lui-même était... il a défendu la France, lui-même était un artiste. Voilà, il nous a plongé dans l'âme humaine, et je pense souvent à ses livres, Et je pense autour du malheur, je pense à tout ça quand j'écris pour la France, bien évidemment.
Yannick Barthes, vous avez vu ce film ?
Oui, oui, je l'ai vu et j'ai été très, très ému par ce film, évidemment. Je crois qu'effectivement, c'est pas du tout, ce sont des affaires qui ne sont pas du tout comparables. Je trouve qu'on retrouve aussi quand même l'idée que ce n'est pas à travers ces affaires de justice, en fait, hein, ce n'est pas l'institution forcément qui est remise en cause, c'est au contraire des personnes qui n'ont pas été à la hauteur, en fait, du rôle qu'elles devaient avoir dans cette institution. Quand je prends les familles des soldats du Zbin, c'est aussi un discours un peu similaire qu'elles tiennent, puisque elles reprochent aux officiers qui sont un petit peu visés d'avoir sali l'uniforme en ne prenant pas toutes les précautions nécessaires pour garantir la sécurité de leurs enfants, en l'occurrence.
Rachid Ami, vous aviez suivi cette affaire d'Ouzbine ?
Ouais, je l'ai suivi. Je trouve que c'est une affaire pour moi qui est importante. Mais je ne l'ai pas suivi pour des raisons, on va dire, journalistiques ou de curiosité de citoyen. C'est qu'à un moment donné, je m'étais interrogé si j'avais envie de me plonger dedans ou pas.
Pour en faire un film ou pour écrire, oui.
Pas du tout. On a failli en faire une histoire, en fait, avec Blandine Masson, justement, pour France Culture.
Une fiction radiophonique.
Donc, exactement. Et pour moi, il y a quand même une grande différence. C'est-à-dire, elle est centrale, c'est que... c'est pas des gens qui n'ont pas été à la hauteur, en fait, de notre côté. C'est pas ça qu'on reproche, en fait. C'est qu'il y a des fautes manifestes. Vous savez, l'histoire de Jalal, c'est pas un concours de circonstances, c'est des décisions qui ont été prises, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont été condamnés et qui ont été reconnus coupables par le tribunal, la cour correctionnelle de Rennes, c'est qu'on n'est pas du tout dans le même endroit. Et je crois que quand on est en temps de guerre, c'est pas comme quand on est en temps de formation ou de paix, dans la sécurité que de nous accorder un établissement de l'État. C'est-à-dire, on n'est pas dans les mêmes circonstances. Ma mère a dit une phrase à l'époque au général Vindec, qui était le général de Saint-Cyr, elle lui a dit « Si Jalal était mort au combat, je l'aurais accepté, j'aurais trouvé ça acceptable. Mais mourir à Saint-Cyr, dans l'école de la République, ça... » Et elle n'a jamais fini sa phrase. Elle s'est arrêtée là.
Yannick Barthes.
Oui, alors, c'est vrai, mais ça me fait penser que une des questions précisément qui se pose dans le cas du Zbin, bien sûr qu'on le sait que ce sont des opérations de combat, mais en même temps, les autorités politiques notamment ont eu beaucoup de mal à reconnaître que nous étions dans une situation de guerre.
D'ailleurs, c'est la question qu'un député, un certain Jean-Marc Ayrault, pose à l'époque au Parlement. Est-ce qu'on est en guerre ?
Est-ce qu'on est en guerre ? Et là, on assiste à des hésitations. Bernard Kouchner, à l'époque, ministre des Affaires étrangères, disant non, ce n'est pas la guerre, ce sont des opérations qui ressemblent à la guerre, des opérations de guerre, mais ce n'est pas la guerre. Vous voyez, bon... Donc en fait, ça jette un certain trouble, c'est-à-dire que pour les familles, je pense qu'elles ne s'attendaient pas à une telle violence de guerre. Peut-être mal informées, mais en tout cas, elles ne s'attendaient pas à cette violence de guerre. Et effectivement, d'où le choc aussi d'apprendre qu'à Ouzbin, eh bien, il y a eu du combat au corps à corps, il y a eu une violence inouïe pendant
ce qui a été caché, pendant caché assez longtemps,
voilà,
y compris un mort à l'arme blanche.
Voilà, exactement. Donc effectivement, donc et d'ailleurs juridiquement, c'est précisément parce que ces opérations extérieures ne sont pas qualifiées de guerre, que les familles des soldats du Zbin ont pu se porter partie civile.
Bah, néanmoins, Rachid Ami, ce n'est pas non plus une situation de formation dans une école en France. Hein. On est bien d'accord.
Oui, mais je rejoins juste quelque chose. C'est-à-dire, si on doit parler de la question politique, elle est importante. C'est-à-dire, accepter l'état de guerre... C'est accepter les pertes qui vont avec et accepter aussi que ce qui s'est passé au Zbin, et comme toujours, quand il y a des tragédies pareilles, c'est qu'il y a eu aussi quelque part, je pense, des leçons à tirer de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise pas. Et que justement, c'est des moments où les stratégies mises en place et les décisions qui ont été prises pour mener une mission sont remises en question, les doctrines, voilà, c'est ça la guerre. Et moi, je pense qu'il vaut mieux dire aux gens qui sont en guerre, qu'on était en guerre, c'est une réalité. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, quand des soldats tombent en se battant contre les orpailleurs en Guyane ou qu'il y a des gendarmes qui perdent la vie dans l'exercice de leurs fonctions, mais comme on est en France, ils ne sont pas considérés comme une opération extérieure, ils ne sont pas considérés comme étant en guerre. Donc c'est particulier aussi. Il y a un truc dans le cadre politique de la manière dont on présente les choses à la population, bien évidemment, qui doit être clarifié, mais ça, c'est du domaine du politique. Et ça, c'est là où, si vous voulez, moi, je fais la grande différence entre l'armée et le politique. C'est que le politique a un devoir de communication de la vérité à sa population. L'armée est là pour défendre et exécuter ce que le politique lui dit de faire, quelque part.
Oui, Yannick Barthes, ça me permet de vous poser une dernière question. Vous utilisez ce mot de politisation comme la dernière couche, au fond, de la responsabilisation. Parce que là, on parle justice, donc c'est établissement de responsabilité éventuellement pénale ou civile, de par la justice. Mais la responsabilité politique, c'est autre chose. Vous disiez tout à l'heure, on n'a pas vraiment de mot pour dire blaming en français, on n'en a pas vraiment non plus pour dire accountability. C'est peut-être pas un hasard, dans la culture politique française, c'est des mots qu'on est obligé d'importer de l'anglais. Mais la responsabilité politique entendue en ce sens-là, pas celle de l'article 49.3, c'est quelque chose qui est très important dans ces dispositifs.
Oui, tout à fait. Je pense que, en fait, le point d'aboutissement du blaming, disons, c'est aussi de rendre possible la politisation du malheur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas seulement accuser des responsables politiques, mais c'est de mettre sur la place publique une discussion, en l'occurrence la discussion sur justement ce qu'on disait à l'instant, comment qualifier ces opérations, est-ce que ce sont des opérations de guerre ou pas, pourquoi envoie-t-on ces soldats en opération extérieure, quelle est la légitimité, y a-t-il une menace, y a-t-il une réelle menace, quelles sont les conditions du sacrifice du soldat. Voilà, ce sont toutes ces questions que permet en fait le blaming. Et parce que, et c'est ce que j'appelle la politisation du malheur, en fait. C'est pas au sens d'accuser, de trouver un responsable politique, absolument.
Et ça souligne bien que, à la fois, il y a de plus en plus d'instances de contrôle, y compris dans l'administration, mais que les instances de contrôle politique, quand en particulier il n'y a pas de débat parlementaire sur les opérations militaires, elles font défaut, ces instances de contrôle au plan politique. Merci beaucoup, Yannick Barthes, et merci beaucoup, Rachid Ami. Je rappelle que votre film, on peut le voir sur des plateformes VOD encore. Il date d'il y a 3 ans, mais on peut tout à fait le voir. Et on trouve la référence du livre de Yannick Barthes, L'affaire d'Ouzbine, sur la page de La Suite dans les Idées.
France Culture, La Suite dans les Idées, Sylvain Bourmont.
Actualité électorale, en quelque sorte, aujourd'hui, à La Suite dans les Idées, puisque, comme vous le savez, des élections municipales vont se tenir dans toutes les communes de France dans quelques jours, 2 tours d'élections. Et c'est l'occasion pour vous, Marie-Hélène Baquet, avec votre collègue Jeanne Demoulin, vous êtes sociologue, de diriger un petit volume de la série La vie des idées qui paraît dans cette collection des PUF sur les élus des banlieues populaires. Et l'occasion pour vous de rendre compte d'une enquête que vous avez menée sur un territoire, un département en particulier, la Seine-Saint-Denis, à propos de ces élus de banlieues populaires pour essayer de savoir à quoi ils ressemblaient, qui ils étaient et comment ils avaient changé ou pas. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui ont fait que vous êtes intéressé à ce département, c'est que aux dernières élections, celles de 2020, puisque c'est tous les 6 ans, les municipales, il y a eu un renouvellement assez important de ces élus.
Oui, un renouvellement important depuis 2014 d'ailleurs, qui est à la fois lié à un renouvellement politique, puisque c'est le département qui était marqué par l'histoire de la banlieue rouge, donc avec...
Il y avait beaucoup de communes communistes.
Oui, beaucoup de communes communistes, un département qui était communiste et qui est devenu socialiste. Et donc, voilà, au cours des deux dernières élections, on a vu se renouveler un certain nombre de maires et puis des équipes.
Il n'y a plus que 6 communes.
Il n'y a plus que 6 communes.
Communiste aujourd'hui, il y en a quoi, 18 à la droite, je ne sais plus, vous avez, mais c'est dans ces proportions-là.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et donc on voit bien, enfin, il y a eu un véritable changement, et donc forcément un renouvellement en termes de personnel politique.
C'est ça, un renouvellement en termes de personnel politique, puisque c'est un département qui était marqué quand même par une présence ouvrière. Et l'histoire du Parti communiste a fait qu'il a ouvert la représentation politique au monde ouvrier. En 1970, il y avait 17 maires ouvriers en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Les mandats politiques sont occupés par des classes moyennes et des classes supérieures, comme dans toute la France.
Alors de ce point de vue-là, c'est une situation locale qui est intéressante, peut-être un miroir grossissant, parce que ça permet de poser la question de la représentation politique et de l'écart entre la population censée être représentée et celles qui la représentent, en forçant un petit peu les traits, en fait, dans ce département.
C'est ça, en forçant les traits et en voyant émerger une autre question qui est celle de la représentation des populations racisées, qui sont très importantes en Seine-Saint-Denis. Elles représentent la majorité de la population, même si on n'a pas d'études statistiques qui permettent de le montrer. Et on voit quand même que depuis 2001, entre 2001 et 2020, le nombre des élus racisés et des candidats racisés augmente. Ils étaient 10% à peu près en 2001 et aux dernières élections, 40%. Donc on voit une vraie représentation qui se construit. En ce qui concerne les femmes, on voit la même chose que nationalement, hein, c'est-à-dire que les lois sur la parité ont imposé une parité, mais les femmes accèdent très peu au mandat de pouvoir dans les exécutifs.
Elles sont conseillères municipales.
Voilà, elles sont aussi dans les bureaux municipaux, mais sur des postes, elles sont rarement, par exemple, chargées des finances ou de l'urbanisme. Elles s'occupent des affaires sociales, de la jeunesse ou des femmes. Et donc elles sont reléguées dans des postes moins reconnus et qui sont des postes de moindre pouvoir, mais comme les élus racisés d'ailleurs.
Alors, vous ouvrez le volume par un constat qui peut paraître paradoxal, mais qui est en fait la complexité de la situation. Vous dites qu'il y a à la fois fermeture et ouverture. C'est-à-dire, fermeture, c'est ce qu'on constate un peu partout ailleurs, c'est-à-dire que le champ politique, le monde politique est un monde de plus en plus clos, fermé sur lui-même, une activité professionnelle à part entière. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont fait que ça dans leur vie et ne feront que ça. Mais là, on est dans une situation un petit peu différente d'ailleurs. En moyenne en France, il y a des formes d'ouverture qu'on perçoit malgré tout.
Oui, il y a des formes d'ouverture et notamment à la représentation des populations racisées avec des élus qui arrivent par des voies qui sont souvent pas des voies classiques d'une carrière au sein des partis communistes.
Alors c'est quelle voie ? C'est le syndicalisme ? C'est le mouvement associatif ?
C'est le mouvement associatif beaucoup plus que le syndicalisme. C'est la représentation dans les quartiers populaires, l'organisation
d'associations locales,
jeunesse, d'associations locales qui vont faire de l'aide aux devoirs. De la solidarité. Et donc, c'est par ce biais qui est aussi, dans un certain nombre de villes, finalement un peu un héritage du communisme municipal. Hein. Donc, c'est par des associations locales et avec des jeunes qui se sont souvent sentis exclus du monde de la politique. Masclé avait publié
Olivier Masclé, ouvrage, oui.
Voilà,
oui.
La gauche et les cités, un rendez-vous manqué. Et donc, du coup, ces jeunes prennent d'autres voies pour arriver en politique. Et on voit quand même une ouverture importante de ce point de vue-là.
Une ouverture plus marquée d'ailleurs que pour les femmes, parce que vous parlez de l'émergence des maires racisés qui sont plutôt des hommes.
Oui, qui sont plutôt des hommes. Il y a peu de femmes racisées et quand il y a des femmes racisées, elles sont de passage. Il y en a notamment eu deux, une à Aubervilliers et l'autre à Clichy-sous-Bois, qui ont été maires pendant quelques mois, voire une courte période, quelques années.
Pourquoi elles ont eu du mal à le demeurer.
C'est deux cas différents. La maire d'Aubervilliers a été assez vite contestée, je pense en tant que femme et en tant que femme racisée. Celle de Clichy-sous-Bois, en fait, a remplacé Olivier Klein pendant qu'il était ministre. Et Olivier Klein
a demandé son poste.
Voilà. Mais aux prochaines élections, elle se présentera contre Olivier Klein.
Vous consacrez, enfin, il y a un chapitre qui est signé de Jeanne de Moulin et vous sur l'entrée en politique. Vous avez pu aussi observer des formes de renouvellement générationnel et une place pour des personnes plus jeunes également.
Oui, alors le département de la Seine-Saint-Denis est un département plus jeune, avec un personnel politique plus jeune, mais les élus racisés, plus particulièrement, sont jeunes, et ce sont notamment ces jeunes élus qui viennent du milieu associatif et voilà qui ont poussé, qui se sont organisés pour être représentés. Donc, ce qui nous a intéressé, c'est leur trajectoire, c'est-à-dire la façon dont ils rentrent en politique, tout contre les partis politiques, quelquefois en opposition, avec des parcours qui ne sont pas des parcours linéaires, qui sont des parcours de négociation avec les partis, mais où ils gardent bien souvent leur indépendance.
Alors on sait que les partis ont des stratégies par rapport à cette question de la race en politique, des stratégies électorales qui peuvent être très différentes, voire très violemment différentes, à l'intérieur de la gauche en particulier. Et là, vous vous situez du point de vue de ces gens qui ne sont pas dans les partis et qui sont principalement concernés. Mais comment vous avez observé la mise en place de ces stratégies de la part des organisations politiques traditionnelles?
Alors, les organisations politiques traditionnelles ont été très lentes à laisser une place à des élus racisés, à des individus racisés, notamment à des femmes racisées. Il faut quand même souligner que les deux premiers maires racisés en Seine-Saint-Denis sont deux maires communistes, mais qui ont fait un très long parcours au sein du parti pour arriver à ce poste-là, et qui sont souvent arrivés dans des contextes compliqués. Le maire de Stein, par exemple, a dû faire face à une primaire organisée par le Parti communiste, ce qui était très rare à l'époque en 2014. Donc des parcours compliqués dans les partis. Bon, cette question aujourd'hui émerge fortement, mais bien souvent, voilà, elle passe par des formes de clientélisme. On va aller chercher le représentant de telle ou telle communauté. Elle est rentrée en même temps, c'est intéressant, elle est rentrée dans le débat politique. Elle est notamment portée par LFI aujourd'hui, qui pose voilà, comme objectif une représentation des populations racisées. Mais elle est aussi portée par la droite. Hein. Il y a deux des maires racisés aujourd'hui. En Seine-Saint-Denis sont des maires de droite, et cette question a été portée à partir de la notion de diversité qui appelle voilà, beaucoup de discussions. Elle a quand même été portée par Sarkozy, par Nicolas Sarkozy en son temps, puis
reprise par le Parti Socialiste. Oui, je ne suis pas sûr qu'ils n'utiliseraient pas nécessairement ce mot de racisé qui est issu de travaux sociologiques pour se caractériser eux-mêmes, Marie-Hélène Baquet. Peut-être un dernier mot sur la manière dont vous observez la campagne en cours, dans ce qu'elle peut avoir de continuité ou au contraire peut-être de rupture par rapport à ces résultats de 2020-2014 sur lesquels vous aviez travaillé.
La campagne en cours, elle montre une forme d'élitement des partis politiques, d'éclatement des partis politiques, avec des alliances ponctuelles, avec des collectifs locaux, ce qui est vraiment dans la suite de ce qu'on avait vu, une montée des listes citoyennes qui sont aussi très présentes dans les débats. Mais ce qu'on voit quand même, c'est une forte présence en Seine-Saint-Denis de têtes de liste racisées. Par exemple, à La Courneuve, il y en a trois. À Aubervilliers, il y en a trois. Donc, on peut penser qu'il va y avoir un changement majeur dans leur représentation.
Et on verra ça au résultat de ces élections municipales très prochainement. Merci Marie-Hélène Baquet.
Merci.
Ce livre avec Jeanne Deboulin, élue des banlieues populaires à la vie des idées aux Presses universitaires de France. C'était la suite dans les idées, Sylvain Bourmeau avec Aurélie Marsay, à la technique aujourd'hui Éric Perruchot, à la réalisation Camille Mathieu.